France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, Ulysse, le voyageur malgré lui, l'homme que les dieux envoient à leur guise, à droite, à gauche, dans le monde, partout où ils le veulent, revient avec son bateau et son équipage d'une expérience extraordinaire.
Eurylla, Philétol, Héraclius, prêtez-moi une oreille attentive. Dans peu de temps, nous reprendrons la mer. De très dures épreuves nous attendent. Si à mes ordres vous n'obéissez pas, vous mourrez. Nul n'en réchappera.
Cette fois, il est allé dans l'au-delà. Il a franchi le cours de l'océan, ce fleuve qui limite le monde, qui borde toutes les terres et toutes les mers. Et il est entré dans le pays des morts, dans la maison du dieu Hadès et de son épouse Perséphone, seigneur des enfers.
Il ne te suffit pas de vagabonder sur les mers, il te faut aussi descendre au royaume des morts. Pourquoi te moques-tu de nous ?
Il est entré dans ce monde des ténèbres en étant vivant. Et il en ressort passablement effrayé, mais toujours vivant.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Qu'a-t-il appris là-bas, ce lieu où personne ou presque ne va jamais de son plein gré et d'où normalement on ne revient pas? En fait, il n'a pas appris grand-chose. Il a appris qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir à se faire une fois qu'on est mort et enfermé chez les morts. On doit se résigner à vivre, si on peut dire, pour toujours sur cette prairie d'asphodèles où il ne se passe quasiment rien, où on est devenu une ombre, sans consistance. Ulysse voit sa mère morte. Il veut l'étreindre, mais ne saisit que du vide. Sa mère, qui séjourne là depuis plusieurs années, peut lui expliquer la faiblesse des morts. Leur corps, tué, passé par le feu, n'a pas de fermeté, ne tient pas. Il est perdu. Quant à l'âme, ce souffle qui fait vivre, elle a quitté le corps dès le trépas, tout de suite. Elle ne reviendra jamais dans son corps et elle volette dans l'immense espace souterrain des enfers, sans but, sans repos. Les morts sont tristes. Si ce sont des guerriers, ils exhibent les blessures sanglantes qui les ont envoyés dans l'Hadès. Les femmes continuent à souffrir si elles ont perdu leur amour. Les parents regrettent leurs enfants en aller et dont ils sont sans nouvelles. Il n'y a pas de gaieté. Les disparus ont le blues. C'est un monde sans vie après la mort, sans salut. Un monde d'affaiblissement, de disparition. Il n'y a pas de paradis, pas d'enfer au sens chrétien, de lieu de supplice pour les gens mauvais, pas de purgatoire. On est là, tout simplement. On pense au passé et on a une envie immense d'en parler, de demander des nouvelles si par hasard un vivant se fait voir. Ulysse a dû faire ce long voyage pour consulter un mort, le vieux devin Tirésias. C'est celui, le très voyant, bien qu'aveugle, ou parce que aveugle, qui sait quelle route Ulysse doit prendre pour rentrer chez lui dans son île d'Ithaque. Le devin lui donne quelques indications, mais surtout, fidèle à son rôle de devin, de messager des dieux, il avertit Ulysse sur la nature des dangers qu'il devra affronter. Le danger est double. C'est la malédiction qu'a lancée contre lui le cyclope Polyphème. Et c'est lui-même, Ulysse. Le cyclope a maudit Ulysse parce que Ulysse l'a aveuglé pour ne pas être mangé par lui avec tous ses compagnons. Ulysse était en état de légitime défense, mais il a imposé au cyclope une énorme souffrance. Ce cyclope est fils du grand dieu Poséidon. Et Poséidon a décidé de venger son fils. Ulysse aura beaucoup à souffrir. Mais Ulysse pourra vivre vieux et heureux, dans un bonheur partagé par sa famille et son peuple. Si pendant le voyage, il fait les bons choix, si par exemple, il évite pendant l'une de ses étapes de manger de la viande des vaches qui sont sacrées et taboues, ça dépendra de lui. Le devin signale bien à Ulysse que cette fin heureuse ne se réalisera que si pendant son voyage, il sait prendre les bonnes décisions. L'avenir est ouvert. Mais il ne faut pas se tromper. Les dieux fixent les conditions qui sont terribles et on essaye de se débrouiller au mieux. Les dieux, apprend Ulysse, ont décidé qu'il pouvait ne pas mourir comme sont morts la plupart de ses camarades de guerre. Mais encore faudra-t-il qu'Ulysse soit à la hauteur de cette décision. fort de ces avertissements, Ulysse quitte les enfers. Il s'embarque avec ses compagnons sur son bateau et il suit le cours du fleuve Océan, vers l'autre extrémité du monde, vers l'extrême est, vers les lieux du Levant. Il rejoint l'île de la déesse Circé, fille du dieu Soleil, à savoir l'île d'où il était parti pour cette navigation vers les ombres, vers les morts. C'est Circé, la magicienne solaire, qui lui avait annoncé qu'avant de rejoindre son île d'Ithaque, il devait impérativement passer par l'au-delà, entrer dans l'obscure maison des morts et revenir. C'est étrange, cette alliance de la lumière solaire et du pays des ténèbres, mais on commence à s'y habituer avec les mythes. Ils adorent mêler les contraires. Circé, la divinité lumineuse, envoie Ulysse chez les ombres, dans les ténèbres. L'île de Circé, c'est la beauté, l'imprévu. C'est le lieu où la vie peut changer de forme, à l'infini, selon les caprices de la magicienne. C'est le lieu où la fête généreuse, bien arrosée de vin, peut subitement succéder à la froide cruauté. Circé, celle qui fait bouger toutes les formes, n'est pas à un paradoxe près. Son île est sauvage, couverte d'une forêt luxuriante, mais les lions et les loups féroces y ont été changés en bêtes douces qui viennent gentiment se faire caresser. Circé, magicienne lumineuse qui fait chatoyer la vie, qui fait varier dans tous ses aspects, est celle qui envoie Ulysse dans les ténèbres, là où il ne se passe rien. Dans les enfers, tout est morne et fixé pour toujours, dans une interminable répétition sans espoir. Circé envoie Ulysse vers un monde qui est l'exact contraire du sien. Et elle le fait revenir. En fait, elle ouvre par là à Ulysse le chemin d'une expérience totale qui passe par les univers les plus opposés que l'on puisse imaginer. Et ce contraste si fort, ainsi que ce lien entre Circé, la déesse solaire, et l'obscurité de la maison des morts, correspond exactement à l'aspect de la plante magique que Hermès a arrachée pour Ulysse du sol de l'île de Circé. Sa racine était noire, sa fleur lumineuse. Il fallait qu'Ulysse fasse, depuis chez Circé, le lien entre ces deux mondes. Ce passage par l'obscur, par les morts, était visiblement nécessaire. C'est en passant d'un monde à l'autre, du monde solaire de Circé à l'obscurité de l'au-delà, qu'Ulysse pourra trouver le chemin très étroit, presque invisible, qui le ramènera chez lui. Seul un devin aveugle et trépassé pouvait annoncer à Ulysse le sort que les dieux lui réservaient et quelles étaient ses obligations chez les vivants. On peut supposer qu'un devin vivant ne l'aurait pas pu. Il fallait quelqu'un qui ait connu tous les états possibles de l'existence humaine, comme vivant, comme mort, comme homme et comme femme, puisque dans sa vie, ce devin Tirésias avait été les deux. Et il fallait que ce mort ait encore gardé bien ferme, bien implanté, un esprit en état de marche, qui connaisse tous les aspects de la réalité et qui puisse les dire. La vie est opaque, imprévisible. Les vivants n'en ont qu'une perception bornée, selon le moment qu'ils vivent. Un mort, s'il est lucide, peut y introduire quelques repères, quelques traits de lumière. Apprendre ce qu'est la vie, toujours dure, insaisissable, ne peut venir peut-être que d'un lieu où on en est définitivement privé, un lieu d'après. Après leur visite chez les morts, Ulysse et ses compagnons rejoignent l'île de Circé pendant la nuit. Ils dorment sur la plage en attendant la lumière de l'aurore. Quand l'aurore paraît, ils s'empressent de rendre les derniers honneurs à un de leurs compagnons dont ils ont vu l'âme errante à l'entrée des enfers. Un compagnon qui était mort par accident et par ivresse chez Circé, ils lui font une tombe. Puis, quand Ulysse et ses hommes eurent rendu l'hommage rituel que rendent les hommes mortels à l'un de leurs décédés, la déesse Circé peut apparaître. Elle, l'immortelle, veut n'avoir rien de commun avec tout ce qui a trait à la mort. Ça ne concerne que les humains. Elle a attendu que le rite funèbre soit fini. Sur la plage, elle vient. En grand appareil, ses servantes apportent une masse de bonnes victuailles, celles qu'aiment les mortels, du pain, de la viande et du vin. Mais Circé ne peut s'empêcher de dire à quel point, après leur voyage chez les morts, ces humains se sont encore plus éloignés d'elle, la déesse.
Circé n'ignora pas notre retour de chez Hadès. Vite, elle arriva en grand équipage. Les servantes l'accompagnaient, chargées de pain, d'abondance de viande et d'un vin rouge au visage de feu. Elle se mit au milieu de nous et la divine parmi les déesses parla.
Homme sans peur, vivant, vous êtes descendu chez Hadès. Vous aurez double mort, alors que tous les autres ne meurent qu'une fois. Mais bon, mangez cette nourriture et buvez ce vin, ici même, toute la journée. Dès que paraîtra l'aurore, vous prendrez la mer. Je vous dirai la route et vous signalerai tout en détail, afin qu'aucune intrigue mauvaise ne vous fasse souffrir sur mer ou sur terre, en proie au malheur.
Elle dit cela, et nos cœurs virils furent convaincus. Ainsi, tout le jour jusqu'au soleil couchant, nous restâmes là, à partager force viande et une douce ivresse.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Porté par un malin caprice, la reine touche l'eau puis s'glisse. Éponge son front tout mouillé, enlève d'une main ses souliers. Humecte ses lèvres au goût de miel, dégage ses cheveux couleur ciel. Reine de Sicile et Formentor, chaque île appartient à son corps. Un bain d'ivoire, des flamants roses, et sa peau noire, marquée de prose. Circé a l'air de t'en goûter, avale les omoplates de ton âme.
Pierre Judet de Lacombe raconte comment Circé prévient Ulysse des dangers qui l'attendent sur sa route.
Après cette journée de festin sur la plage, au moment où le soleil se couche, Circé prend Ulysse par la main et le mène à l'écart. Ils s'étendent. pour une ultime nuit d'amour, ce n'est même pas dit. Plutôt, pour une longue nuit intime d'instruction nautique. Circé tient un très long discours à Ulysse. Elle énumère en détail tout ce qu'il va rencontrer pendant son voyage marin. Quelle île, quel rocher, quel monstre, quel danger il va croiser et quelles sont ses chances de succès. Elle donne de vrais conseils de navigation et surtout, comme Tirésias, mais avec infiniment plus de précision, elle décrit à Ulysse toutes les situations critiques, périlleuses, où il devra choisir, prendre la bonne décision s'il veut sauver sa vie et celle de son équipage. Le parcours marin qu'elle annonce est une suite de bifurcations possibles, c'est binaire. Chaque fois, il s'agira de ne pas se tromper entre deux options. Circé met Ulysse en condition. Elle ne parle pas de la malédiction du cyclope, de la colère de Poséidon, comme l'avait fait Tirésias. Elle n'évoque que les choix que devra faire Ulysse pour vivre ou pour mourir. C'est très basique. Elle souligne chaque fois les conséquences désastreuses d'une mauvaise décision éventuelle. Ulysse est ainsi renvoyé à lui-même, à son intelligence légendaire et à sa capacité à commander sa troupe. Ce n'est pas un destin que trace Circé, mais une course d'obstacles avec le choix entre la vie ou la mort. Choix difficile, car le côté qui apporte la mort paraîtra d'abord plus séduisant, plus vivant. Il faudra renoncer, beaucoup. Circé, pendant cette nuit instructive, annonce trois étapes qui seront extrêmement dangereuses. La première étape est l'île des sirènes, ces chanteuses maléfiques. En fait, ce n'est pas une étape, car il ne faudra à aucun prix s'y arrêter. Si on débarque sur cette île, c'est la mort certaine, la pire, une mort lente, sans funérailles, sans tombe, une fin de vie dans la pourriture. Les chairs vont se dessécher, les os vont se décomposer. Meurent sur l'île des sirènes toutes les personnes qui ont été séduites par la voix merveilleusement belle et par le chant de ces femmes oiseaux. Je ne devrais pas dire « femme oiseau » pour Homère, pour l'Odyssée. Dans le poème d'Homère, elles ne sont que des voix. Les peintres, eux, ont bien dû leur donner une forme quand ils les représentaient sur des vases. Ils en ont fait des femmes pourvues d'ailes, qui volent au-dessus du navire d'Ulysse. Les sirènes antiques n'avaient pas de queue de poisson. Elles étaient aériennes, comme la voix qui chante. On dit bien des paroles qu'elles peuvent être ailées. Homère ne nous décrit pas les sirènes. Il dit seulement qu'elles sont deux, qu'elles sont assises au milieu des fleurs d'une prairie, comme est fleurie la prairie où traînent les morts dans les enfers. Mais on ne sait pas si ces fleurs sont des asphodèles, comme dans les enfers. Homère ne nous dit rien. Ce parterre de fleurs chez les sirènes est jonché de morceaux de chair humaine en décomposition. Posées là, ces femmes attendent leur proie. Le chant des sirènes, dit Circé, est plus que dangereux. Il dessèche, décharne, il fait mourir ceux qui l'entendent et tentent de les rejoindre. Leur île est couverte de cadavres d'auditeurs, en état de momies entassées, démembrées. Circé est très claire dans l'avertissement qu'elle donne.
D'abord, tu arriveras près des sirènes. Elles charment tous les humains qui les approchent. Si par ignorance on va près d'elles, si on écoute la voix des sirènes, aucune épouse, aucun gentil enfant ne sera là pour le retour, pour faire la fête. Les sirènes en sorcellent, avec leurs chants clairs, assises dans leurs prairies. Autour d'elles, il y a une grande dune. Ce sont les eaux d'hommes pourrissants. Autour, les peaux se racornissent.
Pour Circé, il n'y a qu'un remède. Ne pas les entendre en se bouchant les oreilles avec de la cire mêlée de miel. Si Ulysse veut quand même profiter du charme de ce chant sans perdre la vie, il doit demander à ses compagnons, qui se seront bouchés les oreilles, de l'attacher solidement au mât de son navire et de ramer avec force pour s'éloigner au plus vite. Circé ne prédit pas ce qui va se passer. Elle énumère les conditions de la survie et elle laisse le choix à Ulysse, entendre ou ne pas entendre les sirènes. Dans les deux cas, Ulysse devra convaincre ses compagnons de ne pas céder au plaisir d'écouter cette voix s'ils veulent sauver leur peau. Nous verrons bien comment ça va se passer en vrai. Et on entendra juste un peu ce que chantent les sirènes, ces enjôleuses, ces démons qui enchaînent. Sirène, Saérenes. Le nom de ces êtres fait penser au mot grec saéra, la chaîne, qui évoque notre mot série, pour ceux qui enchaînent et s'enchaînent à la suite, comme s'enchaînent et nous enchaînent les séries télé. On entend aussi dans Sirène le nom du chien Sirius, Sairios, le chien de la canicule, de l'époque de la grande chaleur, du calme plat étouffant. Les sirènes endorment les vents, la vie. Circé passe à l'étape suivante dans ses instructions. Elle annonce tout de suite que ce ne sera pas simple. Ulysse devra choisir entre deux routes, une bonne, une mauvaise. Il ne doit pas se tromper.
Puis, quand tes compagnons auront dépassé les sirènes, à partir de là, je ne te parlerai plus de manière linéaire pour te dire laquelle des deux routes sera la bonne pour toi. Tu devras délibérer dans ton cœur. Je vais te dire l'une et l'autre route.
Quelles sont ces deux routes? Il y a débat depuis l'Antiquité. Ce n'est pas clair du tout. J'avoue que j'ai hésité, changé d'avis. J'ai choisi d'abord une route de lecture, puis une autre. C'est comme ça la vie d'helléniste. On n'arrête pas de changer d'opinion. Mais au moins, on a ainsi une chance d'avancer si on s'appuie sur un pied, puis sur l'autre. Mais il faut bien s'arrêter un jour. Laissons-nous guider par Circé. Circé se met à décrire des rochers. Ils sont terrifiants. Elle parle d'abord de deux roches que les dieux appellent les roches errantes, ou les roches qui se bousculent, qui se heurtent, les planctes, planctae. Ces roches sont nommées ainsi par les dieux. Homère ne dit pas comment les hommes les nomment, ni même si elles ont un nom humain. Ces roches sont du domaine des dieux. Vous vous souvenez, dans l'épisode de Circé, le dieu Hermès cueille pour Ulysse une plante remède qui le protégera de la magie de Circé. Cette plante ne porte qu'un nom divin, le Molu. Les hommes ne la nomment pas, car ils ne la connaissent pas. On verra qu'il y a ici quelque chose de semblable. La première roche est très haute et bien lisse. Elle joue un rôle capital dans la vie des dieux. En effet, les dieux conservent et nourrissent leur immortalité parce que des colombes leur apportent régulièrement de l'ambroisie, cette nourriture réservée aux dieux dont le nom veut précisément dire immortalité. Ces colombes viennent de l'extrême ouest, des pays du couchant, de l'ombre, le pays d'Atlas, et elles vont vers l'est, vers l'Olympe lumineux, pour apporter cet aliment divin à Zeus. Elles doivent, à chaque voyage, passer à côté de cette roche plancte qui se dresse comme un obstacle. Or, à chaque passage, une des sept colombes doit mourir, enlevée par la roche.
La première roche, les volatiles ne la passent pas, même les colombes tremblantes, quand elles portent l'ambroisie à Zeus le père. À chaque fois, le rocher lisse en prélève une. Mais le père en lâche une autre pour qu'il y ait le compte.
À chaque passage, Zeus doit compenser la perte d'une colombe en envoyant une autre colombe. L'immortalité des dieux, qu'alimente l'ambroisie, doit payer chaque fois un tribut à la mort. La seconde roche ne laisse passer personne. Elle détruit tout navire qui s'approche. Seul Jason a pu y échapper quand il revenait d'Asie, où il avait conquis la toison d'or. Mais s'il a réussi à passer, c'est que la déesse Héra l'a sauvé. Sinon, son bateau aurait été broyé par les tempêtes et jeté contre le rocher. Le passage par ces deux roches redoutables est donc géré dans les deux sens par le couple divin qui règne sur l'ensemble des dieux et des mortels, Zeus et Héra. Zeus règle le passage d'ouest en est, qu'entreprennent les colombes pour la livraison d'une dose d'immortalité aux dieux, avec chaque fois la mort d'un oiseau, que Zeus compense. Et dans l'autre sens, Héra permet à un mortel qu'elle aime bien, Jason, de passer ce seuil hyper dangereux et de rapporter en Grèce la toison d'or. Puis, sans aucune transition, Circé décrit le rocher où habite la monstresse Scylla, et tout près, plus périlleux encore, le rocher de Charybde. Scylla, Scylla, est affreuse. Elle a six têtes de chienne au bout de cou immense et elle aboie avec une voix de petit chiot qui vient de naître. Une terreur cruelle qui se donne des petits airs de nouveau-né. La roche qu'elle habite est lisse, haute jusqu'au ciel. La roche de Charybde, au contraire, est basse et surplombe un gouffre qui avale tous les bateaux qui passent par là. La roche haute est le gouffre profond qui avale puis recrache ses prises. reproduisent le rythme incessant des vagues de la mer qui s'élèvent et s'effondrent. Circé dit à Ulysse d'éviter à tout prix de passer près de la roche de Charybde. Son bateau serait englouti. Il doit prendre l'autre direction et frôler le rocher de Scylla. La chienne monstrueuse lui dévorera quelques membres de son équipage, mais c'est le prix à payer pour que son bateau passe.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Judée de la Combe évoque l'affreuse description de Charybde et Scylla par Circé.
Je crois qu'on peut alors comprendre ce que veut dire Circé quand elle avertit Ulysse qu'il a le choix entre deux routes, une bonne et une mauvaise. Certains auteurs de l'Antiquité et aussi modernes ont pensé qu'elle voulait dire « Ne passe pas par les roches plantes, là où est passé Jason autrefois, mais choisis de passer par le détroit entre Scylla et Charybde. » Mais si on lit le texte d'Homère pas à pas, sans se faire d'idée au préalable, on voit plutôt qu'elle dit « Ne prends pas la route qui passe près de Charybde, ce serait la mort pour vous tous. Choisis plutôt la route qui passe près de Scylla. Quelques-uns d'entre vous vont être dévorés, comme ça a été le cas chez le Cyclope. Mais au moins, le bateau et la majorité de l'équipage seront sauvés. » Et de fait, quand Ulysse racontera sa navigation, il dira bien qu'il a tout fait pour s'éloigner du rocher et du gouffre de Charybde et se rapprocher de Scylla, conscient des pertes qu'il allait subir. Mais pourquoi Circé a-t-elle parlé si longuement de ces roches planctes, avec la colombe qui disparaît à chaque voyage, et avec la destruction des navires, sauf celui de Jason et des Argonautes. Qu'est-ce que ça apporte, cette évocation ? En fait, comme l'ont montré plusieurs lecteurs, il n'y a pas de différence entre les planctes et les rochers de Charybde et de Scylla. Il s'agit des mêmes rochers. Circé décrit deux fois le même détroit entre deux roches. Ulysse devra passer par ce détroit. Pourquoi cette double évocation ? Pourquoi des noms différents si c'est la même chose ? Encore une fois, il faut se laisser surprendre par Homère. D'une description à l'autre, Circé change de point de vue. Elle décrit d'abord la passe entre les roches planctes, ou entre Scylla et Charybde, c'est la même, d'un point de vue divin. Puis elle le fait d'un point de vue humain. D'abord, elle dit ce que signifient les deux roches pour les dieux, et uniquement pour eux. Sur un bord de cette passe, ce qui pour Ulysse sera le côté de Scylla, les dieux reçoivent leur nourriture d'immortalité, en en payant le prix. Pour ce qui concerne l'autre côté, que Ulysse connaîtra comme celui de Charybde, les dieux n'accordent le passage qu'à un seul mortel, celui qu'ils protègent, Jason. Puis Circé décrit ce que sera cette même passe pour Ulysse. À savoir pour un mortel qui, à ce moment, n'est pas chéri des dieux. Aucun dieu ne l'aidera. Il sera livré à lui-même. Il devra tout seul, avec son équipage, affronter des monstres. Mieux vaut, alors, qu'il passe du côté de Scylla. Il perdra des hommes, mais pas tous. Comme chaque fois, une colombe doit disparaître pour que les autres passent. Le voyage d'Ulysse ne sera pas celui de Jason. Aucun dieu ne viendra le secourir. Il devra décider et agir tout seul avec son équipage. S'il passe par le rocher de Scylla, là où les dieux récoltent leur immortalité avec une perte à chaque passage, Ulysse gagnera ce qui pour lui est l'équivalent de l'immortalité, à savoir sa simple survie de mortel, en payant le prix. Circé finit son long discours en évoquant la dernière étape et l'ultime danger de cette navigation. Cette fois, on a droit non pas à une île lugubre, à des monstres, à des tempêtes, mais à un joli tableau de beauté, d'abondance, de lumière. Le bateau d'Ulysse arrivera près d'une île où vivent des animaux magnifiques, des vaches et des moutons. Ces troupeaux merveilleux appartiennent au dieu Soleil et sont gardés par des nymphes au nom ensoleillé.
Puis tu arriveras à l'île du Trident. Là, pestent en foule les vaches du soleil et ses moutons robustes. 7 troupeaux de vaches et 7 troupeaux magnifiques de brebis, de 50 bêtes chacun. Pour elles, il n'y a pas de naissance et jamais elles ne périssent. Des déesses sont leurs bergères, des nymphes aux belles boucles. Phaétusa, radieuse, et Lampétier, flamboyante, que pour soleil Hyperion mit au monde la divine Néaïra, déesse nouvelle.
J'ai triché dans ma traduction, en utilisant deux fois le mot « troupeau » pour les vaches et pour les brebis. En grec, il y a deux mots différents, « agelai » pour les troupeaux de vaches et « poea » pour les brebis. Nous n'avons pas cette richesse de langue en français. Le grec est plus riche, comme l'était la langue provençale. J'ai demandé à deux amis éleveurs en Haute-Provence, Elisabeth et Patrice Ménet, s'il y avait un mot en provençal pour les troupeaux de moutons. Oui, il y en a un, c'est « aver », forme provençale pour un « avoir ». On dit par là que le troupeau est la propriété de son berger. Le mot a pris un sens très concret. On va voir, on garde, on soigne son « aver ». J'aurais pu dire « des avoirs magnifiques de brebis ». Il y a sur cette île du soleil 350 vaches et 350 brebis. Est-ce que 350 rappelle approximativement le nombre de jours de l'année solaire ? Des auteurs anciens l'ont dit. Ces bêtes sont sacrées, taboues. Il ne faut surtout pas y toucher, sinon c'est la mort.
Ces vaches, si tu les laisses indemnes et si tu penses à ton retour, vous arriverez à Ithaque malgré toutes vos souffrances. Si tu leur fais du mal, je te certifie que ce sera la mort.
Circé a fini de parler. La nuit s'achève. Quand paraît l'aurore, Circé disparaît. Elle quitte la plage et rentre chez elle.
Elle dit cela. Tout de suite vint l'aurore sur son trône d'or. Alors, la divine parmi les déesses s'éloigna dans son île.
Il n'y a pas d'adieu, pas de scène sentimentale, comme ce sera le cas avec Calypso, qui voulait retenir son amant Ulysse près d'elle. Circé est sobre, elle a fait son office. Elle s'en va. On ne la verra plus, enfin, dans l'Odyssée. Sinon, l'aventure continuera autrement, dans un autre poème ancien, avec le fils d'Ulysse, Télémaque, qui épousera Circé, ce que n'a pas fait son père. Mais c'est une toute autre histoire, très confuse. C'est pour plus tard. Ulysse a donc toutes les instructions nécessaires en tête. Il hâte le départ, on embarque. Les compagnons rament, puis vide Circé.
Aux beaux cheveux, extraordinaire déesse à la voix humaine.
Envoie un bon vent portant qui gonfle les voiles. Vite, le bateau arrive en vue de l'île des sirènes. On ne sait pas après combien de temps. Aucune durée n'est indiquée. L'île apparaît brusquement, sans que l'on sache où. Le vent poussait dans cette direction. Puis d'un seul coup, c'est le calme plat.
Puis tout de suite, le vent cessa. Et ce fut le calme radieux, sans aucun souffle. Un dieu avait endormi les vagues.
Les compagnons carguent les voiles et se mettent à ramer. Ulysse fait ce que Circé lui avait conseillé. Il découpe un grand cercle de cire, le pétrit sous les rayons du soleil et en met dans les oreilles de chacun. Mais lui, il ne se bouge pas les oreilles. Il a donc choisi d'écouter le chant envoûtant de ces déesses redoutables. Il veut ce plaisir. Il veut en profiter tout en privant ses compagnons qui doivent, oreilles bouchées, travailler dur à la rame pour éloigner au plus vite le bateau de cette zone de danger. Avant de mettre de la cire dans les oreilles de ses hommes, après, ça n'aurait pas eu de sens, Ulysse leur avait donné des ordres très précis. Qu'il le lie au mât du navire, debout, bien droit, et s'il s'agitait, s'il les suppliait de le délivrer, parce qu'il voudrait rejoindre les sirènes sur leur île, surtout qu'il resserre les nœuds.
François Hartog, historien.
Ces sirènes, ce sont des muses. Elles sont décrites exactement, elles ont les mêmes pouvoirs. Mais ce sont des muses, des anti-muses, ou des muses de mort. Puisque tout l'enjeu, c'est la mort. La mort, entendre, c'est mourir. Si vous cédez à la séduction, c'est le verbe grec, la telgein, qui est à la fois séduire et tromper. Bon, si vous cédez à cet appel, vous n'en revenez pas.
Ma voix est un filet dans lequel ils se prennent. Mon chant est un aimant qui fait perdre le nord. J'attire tous les marins, les chasseurs de baleines, qui pour se récuyer devront défier la mort. Mélomane de mer, il s'approche des brisants. Ils veulent sentir sur eux le souffle de mon chant. Je promets le savoir et la félicité pour une somme symbolique que tous peuvent acquitter. Et qui n'a pas de prix, pour vous, ce sera la vie. Ici Radio Onde, voilà bâbord une galère. S'annonce à l'horizon, coule le prince d'Ithaque. Ajustez vos longues vues, mes jumelles de mer. On le décrit malin, rusé comme un macaque. Faudrait-il qu'on entonne un air sans qu'il se donne. We'll be right back.
Les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe évoque le pouvoir merveilleux et mortel des sirènes.
Les compagnons ligotent Ulysse. Le bateau arrive bientôt à portée de voix des sirènes. Elles repèrent le bateau et se mettent à chanter. Nous pouvons alors entendre, comme Ulysse, un peu du chant des sirènes.
Viens ici, Ulysse mille fois célébré, grande splendeur des Achéens. Arrête ton bateau pour entendre notre voix à toutes deux. Personne jamais n'est passé par ici avec son noir bateau sans entendre les sons de miel qui sortent de nos bouches. Chacun s'en revient charmé et avec un savoir plus grand, car nous savons tout ce que devant Troie la Grande, Argiens et Troyens, ont souffert par la volonté des dieux. Nous savons tout ce qui advient sur la terre, la grande nourricière.
Ces sirènes ont donc un taux d'écoute très élevé. Personne ne résiste. Elles parlent comme les muses, ces divinités, filles de Zeus et de la déesse Mémoire, qui inspirent les poètes. Les muses, comme les sirènes, savent tout, nous dit Hésiode, poète presque contemporain de l'Odyssée. Elles peuvent dire le passé, le présent et l'avenir. Et ce savoir, quand elles le chantent, procure une joie immense aux auditeurs.
Les muses disent ce qui est, ce qui sera, ce qui a été, avec l'harmonie de leur son. De leur bouche coule une voix infatigable qui donne le plaisir.
Ce n'est pas étonnant, cette ressemblance entre les sirènes et les muses. On a raconté que les sirènes sont les filles d'une muse, Terpsichore ou Melpomène, et d'un fleuve, l'Achéloos. C'était courant dans les milieux poétiques de coucher avec un fleuve. L'eau qui coule rappelle le flux de la voix. Orphée, Homère, ont eu un père qui était un fleuve. Ulysse est fasciné par ce qu'il entend. Il veut à tout prix sauter à l'eau et rejoindre les sirènes, mais il ne peut pas bouger. Et parler ne sert à rien. Comme ses compagnons n'entendent pas, il leur fait des signes en bougeant les sourcils. Les compagnons ne se laissent pas impressionner. Ils ajoutent des nœuds aux liens et rament de plus belle. Le bateau s'éloigne. Bientôt, on n'entend plus les sirènes. Une légende qu'on ne trouve pas chez Homère dit qu'après cet échec, les sirènes se sont suicidées. On peut vraiment se demander ce qui envoûte à ce point le pauvre Ulysse. Les sirènes prétendent tout savoir de ce qui a lieu sur Terre. Et ce qu'elles annoncent est en fait très limité et surtout très connu d'Ulysse. C'est tout simplement le contenu de l'Iliade, une histoire déjà ancienne qu'Ulysse connaît par cœur puisqu'il en a été l'un des principaux acteurs. S'il va écouter les sirènes, il n'apprendra rien.
Car nous savons tout ce que devant Troie la Grande, Argiens et Troyens ont souffert par la volonté des dieux.
Pourquoi cela charme-t-il tant? Et pourquoi ce chant fait-il mourir d'une mort lente où on se dessèche au milieu d'une prairie fleurie? C'est bizarre. Ulysse a déjà entendu un chanteur chanter sa gloire en racontant ce qu'il a fait à Troie. Comment il est venu à bout de la ville avec le cheval de bois, bourré de guerriers. En entendant ce chanteur, Ulysse pleurait à chaudes larmes et se cachait la tête dans son manteau. C'était dans le palais du roi Alcinoos et de la reine Arété, le couple royal qui règne sur les Phéaciens. Le poète Démodocos chantait l'épopée d'Ulysse. C'était le même jour, dans la salle même où Ulysse est en train de raconter son passage près de l'île des Sirènes. Pourquoi, quand il s'agit des sirènes, Ulysse, au lieu de pleurer, est pris d'une envie frénétique de les entendre? Quand le poète Démodocos chantait les exploits d'Ulysse à Troie, il ne savait pas qu'il chantait devant Ulysse. Il chantait un chant que la muse lui inspirait. Ulysse était encore un inconnu pour lui. Il ne s'était pas nommé, il était anonyme. En entendant ce chant, Ulysse, le héros glorieux, se rendait compte qu'il n'était plus qu'un réfugié, un errant dépourvu de tout, un naufragé qui avait eu la chance d'être accueilli par ces gens. Il se rendait compte qu'il n'était plus du tout le grand Ulysse chanté par le poète, que cela, c'était du passé, ce n'était plus lui. Là, c'est le contraire. Les sirènes l'ont reconnu tout de suite et elle commence par chanter sa gloire immense et universelle, celle qui correspond à ses exploits fabuleux.
Viens ici, Ulysse, mille fois célébré, grande splendeur des Achéens.
Les sirènes s'adressent à lui directement. Elles font comme s'il n'y avait aucune différence entre l'homme qui erre partout dans le monde, qui est éloigné de sa patrie depuis si longtemps, et le héros grandiose de la guerre de Troie. Par ce chant, Ulysse se voit arraché à sa mauvaise condition présente et identifié à son passé le plus extraordinaire. Son envie violente d'aller écouter les sirènes montre qu'il aurait envie de se fondre ici et maintenant avec cette image-là, celle d'un Ulysse en pure gloire, une icône qui lui ferait oublier tout ce qu'il subit et doit encore subir, toutes ses souffrances passées. Les sirènes ont arrêté le temps. Ulysse, dans leur chant, est entièrement absorbé par son passé, par sa légende. Elle lui propose une image ultra positive avec laquelle il serait tellement tentant de se confondre. Elle lui propose une sorte de selfie poétique géant qui montrerait à jamais ce qu'il est. Une idolâtrie narcissique grandiose, mais morbide. Car si Ulysse n'était que ce passé-là, cette image-là, l'Ulysse vivant, présent, l'Ulysse qui cherche en fait à fuir tout cela et à rentrer chez lui, serait condamné à mourir. Figé dans une image immobile et dépassée de lui-même, il ne serait plus que de la chair morte, en train de se décomposer, au milieu de jolies fleurs, sans même l'honneur d'une tombe. Cette scène de l'Odyssée est vertigineuse. Ulysse, l'insaisissable, le fourbe, l'homme tournoyant, fuyant, jamais à court d'une astuce, d'un mensonge pour s'en sortir, est solidement attaché, figé à son mât. Il ne peut plus bouger, contrairement à tout ce qu'il est d'habitude. Il lui arrive la même chose qu'à Prométhée, ce dieu qui ne tient pas en place, qui est fourbe comme Ulysse, le dieu prêt à trahir, le voleur de feu, se trouve solidement attaché à son rocher par Zeus. Mais cette immobilité enchaînée d'Ulysse est une ruse. Elle est la manifestation de la mobilité extrême de son esprit, qui a été adéquatement conseillée par la magicienne, fourbe elle aussi, qu'est Circé. Ulysse est malin. Il pense qu'en se faisant ligoter, il pourra jouir à la fois du chant des sirènes et de la vie. Il croit qu'il peut avoir tout, sauf que le chant des sirènes ne lui procure aucun plaisir. Il n'est que douleur. Ulysse ne peut pas jouir de la belle image de lui-même qu'elle lui propose. Il souffre atrocement, pris dans les entraves qu'il s'est imposées à lui-même de ne pas pouvoir les rejoindre. C'est un supplice que ses compagnons accroissent en donnant un tour de plus à ses liens. Ulysse est donc vraiment insaisissable. Il est à la fois l'Ulysse auréolé de gloire que chantent les sirènes, l'Ulysse ligoté pour sa survie, et celui qui enrage d'être pris entre les deux. En fait, il n'est nulle part, inconsistant. Mais grâce à l'obéissance et à la vigueur de ses compagnons rameurs, les sirènes sont vaincues. Le bateau s'éloigne et elles deviennent inaudibles. La navigation peut reprendre. Ulysse est délivré de ses liens. Il y avait dans les légendes une autre manière de vaincre les sirènes, non pas en se bouchant les oreilles, en se ligotant, mais en chantant plus fort et mieux qu'elles. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un chanteur à bord, dans l'équipage. C'est ce qui est arrivé lors d'un voyage plus ancien, une génération avant Ulysse, avec le bateau de Jason, le navire Argo des Argonautes. À son bord, il y avait l'immense poète Orphée. Ce navire pouvait aller vite sur les vagues quand Orphée prenait sa cithare et chantait. La cadence de son chant entraînait les rameurs qui faisaient bouillonner la mer.
Au son de la cithare d'Orphée, les Argonautes frappaient de leurs rames l'eau déchaînée de la mer. Le rugissement des vagues éclatait. De part et d'autre, l'eau noire s'écoulait en écume, grondante, effrayante, par la fougue des hommes pleins de force. Sous le soleil, les armes fulminaient, pareilles à la flamme, quand courait le bateau. Son grand chemin ne cessait de blanchir la mer, comme on voit une route fendre bien visible, une plaine qui verdoie.
La nef Argo, comme le bateau d'Ulysse, rencontre les sirènes. On assiste alors à un concours de musique entre Orphée et elle. Orphée, évidemment, gagne. Le poète qui nous raconte cette lutte, Apollonios de Rhodes, du 3e siècle avant Jésus-Christ, est plus précis qu'Homère, dans sa description des sirènes.
Un bon vent modéré portait le bateau. Vite, ils furent en vue de l'île Fleurie. C'est là que les sirènes, filles à la haute voix du fleuve Akeloos, font doucement périr, quand elles chantent, tous ceux qui s'amarrent chez elles. Couchant avec Akeloos, la jolie Terpsichore les avait mises au monde, l'une des muses. Autrefois, les sirènes étaient au service de Perséphone, la fille de Déméter, quand elle était vierge. Elles aimaient chanter avec elle. Aujourd'hui, elles ressemblent en partie à des oiseaux, en partie à des jeunes filles. Chaque jour à guetter sur leur côte accueillante, elles privèrent tant et tant de marins du miel du retour en les liquéfiant de langueur. Vers les Argonautes aussi, sans retenue, elles lançaient leur voix de lys. Déjà, ils étaient prêts à jeter du bateau les amarres sur la rive. Mais le fils d'Oïagros, Orphée, homme de Thrace, plaça entre ses mains une lyre de son pays et il fit entendre la cadence d'un chant rapide dans sa course. Leurs oreilles bourdonnaient de confusion sous les coups du plectre. La lyre faisait violence à la voix virginale. Le zéphyr et la houle sonore, depuis sa poupe, emportaient le bateau. Les sirènes n'émettaient plus que des sons indistincts.
Orphée joue fort, chante fort. Le chant délicat et aigu des sirènes, leur musique douce comme le miel, est recouverte par la musique bruyante, trépidante, limite heavy d'Orphée. Les sirènes sont pulvérisées, confuses. Le navire Argo passe sans encombre. Contrairement aux Argonautes, Ulysse, lui, ne disposait pas d'un tel chanteur. Au chant qui ensorcelle, il ne pouvait opposer que sa frustration. Pour clore cet épisode, je voudrais évoquer une autre odyssée, plus petite, avec moins de monstres et de mers déchaînés, mais quand même angoissante. C'est celle qu'a vécu un poète que nous avons tant aimé et qui a disparu au mois de décembre dernier. Ce n'est pas Orphée, mais il lui ressemble. C'est Jacques Roubaud, l'immense inventeur. Et dire qu'aucun, aucune de nos responsables politiques n'a eu l'idée de lui rendre hommage. Jacques Roubaud raconte son errance dans ce labyrinthe inextricable qu'est la maison de la radio à Paris, un jour où il venait y parler.
Porte A, porte B, porte C, porte D, porte E, porte F. Un soir de mes maussades, je tourne dans le sens direct, puis rétrograde. Porte F, E, D, C, B, ha, 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 B, C, D, E, het, quetera, de mon pas décidé, terrifiant les pigeons. Il n'est pas impossible qu'après 7 fois le tour, je trouve enfin ma cible, le lieu du rendez-vous qui me fut proposé. J'erre imprécisément entre les radiales, confrontant les studios par la mauvaise porte, m'étant trompé de jour ou d'heure ou de semaine. Silence de couloir. Ces secondes fractales, à point rouge fondant, une minute est morte, pendant que j'aventure une réponse vaine.
Et nous nous perdrons un peu plus loin avec le bateau d'Ulysse, entre 2 effroyables rochers. Lequel choisir, Charybde ou Scylla?
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.